Tel que promis à deux jours de l'ouverture de cette saison du Canadien de Montréal, c'est un plaisir pour nous d'accueillir le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien. Ça doit faire du bien de pouvoir te présenter devant ton groupe et d'avoir des attentes plus élevées cette année, je pense, même au sein du personnel de direction que du personnel des joueurs. Sens-tu qu'il y a un buzz différent que évidemment, pour toutes sortes de raisons que tu sentais pas dans le vestiaire au début des précédentes saisons comparativement à là?
Oui, écoute, les joueurs sont prêts, sont excités, puis peut servir du mot pressure. Je pense pas que les joueurs sentent la pression. Ils sentent juste l'excitement de commencer une saison, de voir l'équipe avec les changements qu'on a apportés à notre formation, puis l'expérience de nos jeunes dans la bulle au cours du mois de juillet et août à Toronto. Alors, je vois un jeune groupe qui est excité de commencer la saison, puis sont prêts, puis comme je te dis, on commence la saison dans deux jours, on quitte demain.
Sens-tu qu'il y en a qui sont contents de l'avoir, cette pression-là?
Oui. Coup de pression, encore là, je vois plus...
C'est positif.
Excité de voir une équipe qui, comme je te dis, qu'on a apporté des changements, puis notre équipe est excitée, nos joueurs sont excités. J'ai parlé d'une couple de joueurs dans la dernière semaine, puis... Avant que le camp commence, puis avant que la saison commence.
Jolson réclamé au ballottage aujourd'hui. Tu t'y attendais dans une certaine mesure, parce que j'imagine que quand ça arrive, ça, toi, tu le sais par les communications que tu avais avec les DG avant dans la Ligue, donc tu n'as pas dû tomber en bas de ta chaise?
Écoute, premièrement, oui, un peu, parce que dû que Noah il a seulement joué, je pense, participé à 16 rencontres dans la Ligue américaine dans les deux dernières années. Alors, l'équipe qui l'a réclamé, c'est la Floride, qui avait deux anciens membres de notre organisation, qui est Rick Dudley et Shane Shurlock. Alors, puis aussi, il y avait juste sur les 30 équipes, il y avait juste une claim sur lui, non pas plusieurs claims. Alors, un peu surpris, mais écoute, on lui souhaite la meilleure des chances, puis c'est toujours des décisions difficiles à prendre, puis ça n'était une, mais on n'avait pas le choix de la façon que notre alignement s'en allait pour le début de la saison. On n'avait pas le choix alentour de ça.
On a souvent des sentiments pour des joueurs qu'on a côtoyés dans d'autres organisations. On peut soupçonner qu'il y avait un petit peu de ça avec Frolic, qui avait fait un boulot formidable avec Chicago dans le temps. Frolic et Perry, qui s'amènent à Montréal, sont soumis au ballottage. Ces gars-là savaient que c'était un scénario pas mal plausible qu'ils soient soumis au ballottage quand t'es signé, Marc?
Oui, c'était clair. J'ai même communiqué avec les agents respectifs des deux joueurs, puis j'ai dit, écoute, forte possibilité qu'ils soient soumis au ballottage pour notre taxi squad, puis la décision a été prise ce matin, mais c'est pas une surprise pour eux, mais c'est certain qu'on ne peut pas les perdre, mais jusqu'à midi demain, on n'a aucun contrôle.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les gars, quand ils signent leur contrat, ils savent que ça se peut que ça arrive en début d'année, puis toi, ben c'est pour la long run, j'imagine que t'es déjà signé.
Oui, écoute, c'est un atout qu'on a avec le taxi squad que pas pandémie, ça n'aurait pas été possible. Alors on va avoir besoin beaucoup de profondeur pour les 56 matchs et après. Alors avec 12 attaquants sur nos 21, c'est certain qu'il va y avoir des bruises et des blessures. Alors, ces joueurs-là vont entrer dans l'alignement pour...
J'ai pas été surpris, Marc, que t'embauches deux vétérans, mais j'ai été surpris que parmi ces vétérans-là, que t'embauches pas un joueur de centre. Donc, tu veux vraiment donner là une vraie chance à Jake Evans.
Oui, Jake Evans, c'est le temps. Écoute, il a bien joué à Toronto, puis encore là, on voit ici au camp d'entraînement. À un moment donné, il faut que tu donnes une chance à tes jeunes quand ils te le montrent. Puis il nous l'a montré, puis il mérite la chance, puis il nous a pas déçus jusqu'à date.
Il reste que, et c'est sûr que tu as parlé de ça avec Claude, puis je sais pas comment vous allez gérer ça, parce que dans le fond, Thompson, comme centre numéro 4 l'an passé, il prenait du beau temps de glace, c'était physique, puis il en a pris des mises en jeu, là, il en a remporté 404 sur 733. Jake a 13 parties d'expérience en saison régulière, 6 en série. Il joue entre 5 puis 9 minutes. T'as pas peur de courir après la rondelle avec, je veux dire, juste un centre qui est dans au-dessus de 50% dans sa mise en jeu?
Non. Écoute, Jake, il a beaucoup plus d'atouts que Nate. Et Nate, il a fait du bon boulot aussi, mais à un moment donné, faut passer un autre appel, faut laisser nos jeunes, puis c'est le temps de passer le flambeau à nos jeunes. Alors, on va vivre avec les conséquences.
Est-ce qu'on attache trop d'importance au pourcentage des mises en jeu, Marc, à ce compte-là?
Non, c'est important, c'est très important, mais c'est certain que c'est important, les mises au jeu, c'est possession de rondelles. Mais on ne regarde pas juste ça aussi. Il faut que nos jeunes, tu sais, Nate, comme tu mentionnes, lui en particulier, il y en a d'autres centres, là. Il y a Brian Boyle aussi. Éventuellement, si ces joueurs-là, ils viennent, que tu passes dans le tardeur, il faut passer avec des jeunes. Puis Jake qui a monté des belles choses l'an passé à Toronto, puis on est confiant, puis encore là, on le voit performer, puis écoute, c'est sûr qu'il va faire des erreurs, c'est sûr que il sera pas meilleur que Nate vraiment au début, mais éventuellement, on croit qu'il va être capable de l'égaliser, même de surpasser. Okay.
C'est-à-dire que si Jake a clairement une chose sur laquelle il travaille, j'imagine, depuis la bulle à Toronto, c'est de gagner des face-offs.
Oui, puis Nick avec, KK aussi.
Marc, je pense pas que ça serait, comment dirais-je, erroné de dire que tu crois à la chimie dans une équipe. En temps normal, en tout cas dans ma perception extérieure, là, en temps normal, on organise des activités d'équipe pour que tout le monde se sente vite à l'aise dans un groupe. Il y a beaucoup de nouveaux visages dans ton groupe cette année, des circonstances exceptionnelles. Comment tu t'assures, comme DG avec Claude, puis que le gâteau lève, que tout le monde se sente à sa place?
Ben, c'est plus difficile que les années passées avec un court camp de 10 jours au lieu de 3 semaines, c'est certain, mais on est tous le même jeu de cartes présenté pour toutes les équipes. Alors, partir sur la route, pour moi, c'est important. J'aime ça, surtout pour une équipe qui peut mettre les gars ensemble. Mais encore là, on est dans une bulle, alors les activités d'aller dans un restaurant pour les joueurs, ça va être limité. Même pas possible au début, mais c'est pas des choses qu'on peut contrôler, mais avec notre leadership, avec Shea puis Carey, je suis confiant qu'on est capable d'intégrer les joueurs puis tout va aller bien.
La chimie d'une équipe, c'est la job du capitaine, c'est la job d'un peu tout le monde, du coach, du DG?
C'est un peu tout le monde. C'est surtout les, tu sais, DG. Moi, personnellement, il n'y a pas un DG, tu peux pas vraiment, tu sais, je fais pas d'interaction avec les joueurs tous les jours, là. C'est les joueurs entre eux. C'est ton leadership group qui est en charge de ça, dont les joueurs.
D'accord. On a évoqué rapidement les noms de Kotkaniemi et de Suzuki. Quelles sont tes attentes par rapport à Kotkaniemi dans la parenthèse du tournoi qu'on a vu cet été? On a vu qu'il avait pris quand même des bonnes bouchées là, entre le renvoi à Laval et ce qu'on a vu dans la bulle. Le sens-tu prêt avec cet échantillon-là à penser qu'il est prêt à prendre un rôle vraiment régulier, avoir un impact dans ton équipe?
Oui, basé sur les séries à Toronto, puis le 10 jours de camp ici, qui est prêt. Mais encore là, on n'avait pas d'autre option aussi. Il faut y aller avec nos jeunes, puis faut leur donner la chance de s'améliorer. Puis avec le talent, puis le mot je cherche, avec tout ce qu'on s'attend de lui, tout qu'il offre comme joueur de hockey.
Son potentiel.
Je pense que c'est le temps pour lui de prendre la prochaine étape dans sa carrière.
Suzuki, comment tu vois son évolution? Je sais pas ce que vous lui dites directement. Qu'est-ce que tu aimerais voir de lui comme progression cette année?
Même chose. Reprendre ce qu'il a laissé l'an passé à Toronto. On a vu comment que d'insérer plus que le match est important, plus que Nick sortait. Alors, beaucoup de confiance pour lui. Puis, écoute, je m'attends beaucoup de... On s'attend. Puis je pense que c'est un petit gars qui s'attend beaucoup de lui-même aussi. Alors, il sent le rôle devenir de plus en plus grand pour lui vers l'organisation, avec KK comme nos deux jeunes centres. Alors, on est confiants.
Penses-tu, je regardais que dans ses stats au face-off, il est très efficace contre les centres droitiers. Tu penses-tu que c'est un gars qui pourrait devenir ton numéro 2 aux mises en jeu derrière Dano, peu importe les circonstances dans les 2 ans?
Oui, puis éventuellement peut-être venir continuer à s'améliorer. Pour le, une mise au jeu, c'est l'expérience qui aide beaucoup. C'est connaître les autres joueurs de centre. Puis Nick, c'est un joueur intelligent. T'sais, on le voit sur la patinoire, alors je pense qu'il prend beaucoup d'expérience rapidement. Puis je continue à croire qu'il va s'améliorer sur ses mises au jeu.
Je sais pas si tu dirais que ça serait un statement correct de ma part de dire ça. Dirais-tu que ma perception est juste, Marc, si je pense que toi, comme patron hockey d'une organisation, principalement en plus depuis le début de la pandémie, mais que c'était vrai avant, que signer un contrat à long terme là, du 6, 7, 8 ans, et là en plus avec la pandémie, que tu fais ça un peu en grinçant des dents, en ce sens que tu sais que c'est des gros engagements puis que tu peux jamais être sûr à 100% que ça va être une bonne signature. Comment vis-tu ça?
Dans un monde idéal, il n'y a pas un DG qui va... c'est certain que tu parles des McDavid de ce monde, c'est différent complètement, là. Mais dans un monde idéal, tu donnes des contrats à court terme, comme ça tu te protèges, mais ce qui arrive, c'est que les joueurs éventuellement viennent avoir un pouvoir qui veulent des contrats à long terme, puis si tu n'es pas prêt à y donner, bien, sois prêt à le perdre parce que quelqu'un d'autre qui va lui donner. Alors, c'est une décision qui n'est jamais facile, Mais faut que tu prennes l'âge du joueur en conséquence. Puis surtout là, dans les années qui s'en viennent, avec le cap qui probablement qui va rester certain pour 2, 3, 4, même 5 ans possible, il faut vraiment être prudent avec les contrats à long terme.
Donc, c'est le raisonnement derrière, par exemple, un contrat comme celui que tu as accordé à Josh Anderson, 7 ans, 38,5 millions, pour que tu ailles là, c'est parce que le gars, j'imagine qu'il y avait d'autres offres, il y avait du monde intéressé à lui sur le marché. Puis, mais calcules-tu que c'est un pari? Et je sais pas comment tu le qualifierais comme pari.
Ben, c'est certain, quand tu mets un joueur à long terme, il y a toujours un pari que tu prends. C'est certain, quand tu donnes un contrat à un joueur de 25 ou 26 ans, comparé à un gars de 28, 29 ans, le pari est moins élevé parce que le joueur est plus jeune. Mais il y a toujours une possibilité, c'est certain, mais c'est la réalité que nous, comme DG, on fait face à tous les jours.
Brendan Gallagher, clairement, on l'a vu quand tu as annoncé la conclusion d'une entente avec lui, que c'est un joueur spécial pour toi. C'est un joueur spécial, d'ailleurs, pour pas mal d'observateurs et de partisans. Est-ce que as-tu vécu une première dans ta négo avec Brendan Gallagher, en ce sens que t'es-tu retrouvé dans une situation inconfortable de négocier avec quelqu'un pour qui t'as un immense respect, mais dans un contexte où tu veux aussi gérer le mieux possible ta masse salariale?
Ouais, c'est difficile de pas s'attacher émotivement à un joueur, surtout un joueur comme Garley, mais à la fin de la journée, j'ai pas le choix, faut que je mette les sentiments de côté. Puis mais c'est un joueur que pas seulement, tu sais, on regarde ses statistiques, c'est ce qu'il fait surtout même si Garley il est pas sur la feuille de pointage, il amène tellement de choses à ton équipe. C'est un joueur qui va driver ton trio. C'est un cas, on a vu les dents cassées, mâchoires cassées, il ne veut même pas manquer un chiffre. Il y a tellement de choses qui amènent à une équipe de hockey que la journée qu'on était capable de s'entendre, c'était un soulagement pour moi de l'avoir dans l'organisation. Mais c'est certain, il faut que je fasse le deal le mieux pour l'organisation aussi.
As-tu pensé à un moment donné qu'il y avait une possibilité que vous ne puissiez pas vous entendre?
Oui, à un moment donné, j'étais pas certain, oui, c'est certain qu'il y avait eu les négociations ont été difficiles, mais écoute, ça fait partie de manager puis d'être un DG. Des fois, c'est pas toujours rose, mais quand t'es capable de faire un deal, à la fin, t'es heureux, puis ce qui est arrivé dans le cas de Brendan.
Est-ce que, dans ta tête, là, le gars de chiffre a été obligé de faire un meeting avec le gars de cœur pour toi-même être à l'aise de finalement conclure une entente avec Brendan?
Oui, écoute, le gars de cœur, écoute, ça, c'est, ça a sorti à la fin, comme tu as vu, j'étais un peu émotif parce que j'étais attaché aux joueurs, parce que c'est quand même l'organisation, mais pendant les négociations, j'ai mis ça de côté.
Penses-tu je ne veux pas jaser d'un cas en particulier, mais au plan philosophique, Marc, penses-tu qu'un bon joueur du Canadien qui est québécois peut être plus affecté qu'un autre par sa situation contractuelle quand ça devient un sujet important sur le marché? Important, disons, là, dedans. Dépendamment de l'angle
aucune
où on se place.
Idée, ça dépend du joueur. Écoute, ça va être ça appartient au joueur. Je peux pas te le dire.
Okay. Fait que, exemple, toi, dans ta position, que pour deux cas presque identiques, Tatar et Dano, pour mettre des noms là-dessus, que beaucoup de gens parlent du contrat de l'un et peu de l'autre, toi, c'est la même affaire, ça joue. Est-ce que ça t'énerve que ça parle autant de la situation du contrat de Philippe Dano? Parce que c'est un joueur local particulièrement?
Parce que c'est les médias qui en parlent. Si on n'en parle pas, il n'y a pas de cas là. Autrement dit, c'est nous, c'est les médias qui vont faire un cas avec ça. Nous, à l'interne, on gère une masse salariale, on gère nos joueurs, on regarde l'organisation à court terme et long terme. Puis ça ne changera pas.
Mm-hmm. Est-ce que c'est important, même si tu as dépensé pas mal de cartouches cette année là, pour être à côté dans le plafond salarial, dans l'idée de ne pas te commettre à trop long terme, de te garder de la marge de manœuvre pour d'autres opportunités qui pourraient se présenter, non seulement pendant l'année, mais au début 2021-2022? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris soin de faire attention?
Oui, écoute, surtout avec ce qui s'est passé dans la dernière année, puis là encore là, il n'y aura pas de partisans probablement pour cette saison. Alors, cet argent-là devrait être mis dans avec l'escroc. Alors, le cap ne montera pas. Alors, il faut être prudent. On a des jeunes comme Romanov, KK, Nick, qui vont avoir besoin de contrats. Alors, il faut être prudent à gérer ces contrats-là. Pas juste, c'est pas une année à la fois, c'est plusieurs années. Ces jeunes-là vont commander des contrats à long terme aussi.
Comment tu évalues la progression de Ryan Poehling au cours des derniers mois et particulièrement de la dernière semaine? Là, est-ce qu'il te fait réfléchir ou c'est l'aval qui est tout indiqué pour sa progression?
Trop tôt encore. Encore, on n'a pas joué de match, c'est juste des scrimmages. C'est certain, au moment qu'on se parle aujourd'hui, Jake est un peu en avant de Ryan, mais il est encore jeune, puis on va voir, il va faire partie probablement de notre taxi squad, puis avec seulement 12 avants, à un moment donné, il va avoir son opportunité, puis ça va être à lui de la saisir.
Ça, c'est pas un souci, un défi de mettre un jeune dans le taxi squad, de pas lui donner de glace potentiellement pendant peut-être plusieurs matchs?
Ben là, il n'y a pas d'autres matchs ailleurs, fait qu'on n'a pas le même choix.
Okay, d'ici à ce que la Ligue américaine commence, donc?
Ben, en ce moment-là, on va prendre la décision, ce qui est le mieux pour le jeune, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas une date pour la Ligue américaine, il n'y a pas d'hockey ailleurs.
Non, là, c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est un no-brainer. C'est assez évident. T'as une bonne moyenne. Je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus pour dire là sur le bilan des transactions que tu effectues en carrière. Puis on verra pour les récentes, Marc. Mais quand tu regardes Drouin, il y a beaucoup de nouveaux outils autour de lui. J'ai hâte de voir, là, on a vu le trio que Claude assemble depuis le début du camp d'entraînement. On verra si ça va demeurer. Mais as-tu encore espoir de le voir devenir le joueur que t'es allé ou que tu pensais être allé chercher? As-tu une meilleure compréhension du kid?
Joe, tu parles de Joe Drouin?
Oui.
Oui. Écoute, c'est certain que quand tu fais une transaction, tu connais pas le joueur, mais quand ça fait plusieurs saisons qu'il est dans ton équipe, tu connais très bien le joueur. Alors, Joe, je peux vous dire aujourd'hui que la façon qu'il engage, il a hâte de jouer, il est content de venir à l'aréna. Tu le vois même en pratique, je m'attends beaucoup de Joe cette saison.
Tu sens-tu qu'il y a quelque chose qui a fait la différence dans son attitude? Vois-tu un point tournant ou c'est venu tranquillement?
Peut-être un peu de maturité. Peut-être un peu d'apprendre à vivre avec... C'est un petit gars qui est quand même... C'est un bon petit gars, là. Je dis un petit gars, il est pas petit, là. Je dis,
on comprend.
C'est un bon kid qui est sensible. Puis il y a eu peut-être une période d'adaptation dans un marché québécois pour un jeune Québécois qui n'a pas été facile au début. Mais peut-être un peu avec la maturité, puis les expériences qu'il a eues, qu'il a vécues, il est rendu à une autre étape. Puis j'espère que c'est ça le cas avec Joe.
Vous avez, en principe et sur papier, probablement sur la glace, un excellent duo de gardien de but. Combien de départs souhaitez-vous accorder à Carey dans un contexte où le calendrier va être assez chargé? J'ai vu, là, je pense qu'il y a 7-2 matchs en deux soirs. Il y a des séquences de 9 en 16. Combien de matchs pensez-vous donner à Carey, Marc?
Ben là, moi, Claude et Stéphane, on s'est assis ensemble. On a fait une cédule pour les 56 matchs. J'ai les nombres exacts dans ma tête, mais je vous dirai pas parce que ça peut changer à tout bout de champ, basé sur performance, blessure. Alors, mais il va y avoir beaucoup de parties que Jake va participer.
Tu peux-tu me dire le minimum de départ que tu veux accorder à Jake?
Non.
Non, OK. Les couvre-feux, Marc, vous avez connu ça, vous autres, votre génération de joueurs, quand tu jouais, là, bien avant qu'il y ait une pandémie.
Oui, il y en a un à 8h ce soir. Oui.
Étais-tu un partisan des couvre-feux comme joueur dans tes jeunes années?
Ben, si t'as besoin d'un couvre-feu pour rentrer, là, peut-être tu devrais changer de métier.
Oui, mais dans une ville de tentation comme Montréal, c'est comme si le PM, il jouait dans ton équipe. Là, c'est un environnement idéal pour que tout le monde performe, qu'il n'y ait pas trop de distractions.
Oui, mais écoute, avec la formation qu'on a en ce moment, je vois pas des problèmes avec un, même s'il n'y aurait pas de couvre-feu. On a des joueurs matures qui, je pense qu'ils voient l'importance d'avoir des bons repos. Puis tu sais, les joueurs méritent d'une vie aussi sociale, de sortir, d'aller manger dans un restaurant, mais la veille d'un match, you know, puis d'être prudent, puis de se préparer, parce que la carrière est pas longue, est aussi longue qu'elle était, puis il faut, pendant que ça passe, faut être prêt.
Est-ce que vous en avez parlé parmi les dirigeants de savoir, normalement, on va se soucier des distractions, mais là, est-ce qu'on se soucie qu'un jeune se ramasse trop seul, tout le temps tout seul? C'est bien beau jouer à Fortnite puis jouer à Xbox pour passer du temps, mais sais-tu de quoi, toi, qui te préoccupe, que tu t'assures que tout le monde soit bien, qu'un gars en famille, t'as peut-être moins de soucis, il va voir sa femme, ses enfants, mais les kids qui se ramassent tout seul dans une pandémie, Marc?
Ouais, c'est certain que c'est une bonne question parce que tu vas y penser, mais à moins que le joueur vienne rester avec moi chez moi, j'ai aucun contrôle, là, tu sais. Kéké demeure seul dans son appartement dans le Vieux-Montréal, par exemple. Tu sais, je peux pas l'appeler à 10h de Kéké, tu vas-tu te coucher. Tu fais confiance qu'on lui parle, on lui dit, mais à la fin de la journée, c'est vraiment personnel, leur vie privée. Mais Encore là, je pense que le leadership de Shea, s'il y avait des problèmes, Shea peut s'en occuper.
Mmh. Ouais, mais moi, c'était pas là, de faire la police, Levy. Je sais pas si tu as compris le sens de ma question. C'était plus de savoir, je veux dire, t'as des kids qui se ramassent d'une ville où ils vont être tout seuls chez eux, dans bien des cas, dans leur condo, dans leur hôtel. Je veux dire, est-ce que tu t'assures qu'ils puissent se divertir, penser à d'autres choses? C'est plus ça, l'aspect humain, psychologique, pour être en mesure de bien performer. C'est pas de savoir à quelle heure ils se couchent, mais plus de savoir, tu sais, ou peut-être que c'est pas un souci dans une équipe de hockey?
Non, c'est pas un souci dans une équipe de hockey, je te dirais.
L'état d'esprit des joueurs, de savoir s'ils sont à leur mieux ou s'il y en a qui vivent la solitude plus mal, t'as pas de stress avec ça?
Non, pas du tout.
Bon, ben, tant mieux. Ça veut dire que t'as des gars forts. Romanov, le sens-tu prêt à grimper les échelons rapidement? Depuis le temps qu'on en parle, le voilà prêt à entrer en scène. Es-tu excité de le voir jouer ses premiers matchs puis qu'on ait des échantillons LNH pour mesurer sa valeur?
Oui, écoute, on l'a vu performer ici pendant le camp d'entraînement, on a hâte, mais encore là, on va prendre notre temps avec lui, puis c'est encore un jeune défenseur, alors je suis pas certain qu'on les attentes que vous avez comme partisans, c'est les mêmes qu'on a, mais on sait qu'on a un bon joueur de hockey entre les mains.
Ben, je pense qu'on n'a pas des plus grandes attentes que vous autres, parce que vous êtes tous unanimes, puis je pense qu'on est tous on est tous à la même heure. Je pense qu'on est tous très confiants et enthousiastes, puis il n'y a jamais une note, on n'a jamais entendu une fausse note dans les commentaires de tout le monde de l'organisation sur lui. Alors, je vois pas pourquoi qu'on serait négatif ou qu'on anticiperait quelque chose qui est pas positif. Juste un petit mot, 3 voyages dans l'Ouest, là. Toi, t'as fait la Ligue au complet comme joueur, comme DG. Tu sais comment ton équipe se comporte quand ils font un voyage dans l'Ouest. Sais-tu de quoi gérer par rapport au fuseau horaire, l'élément fatigue? Je sais que c'en est un pour les équipes de l'Ouest, mais maintenant que tu vas y aller plus souvent pour vous autres, les ajustements ou pas besoin?
Bah, habituellement, il va 2 fois par année dans l'Ouest.
Ben là, c'est...
On va en Californie une fois, puis on va aller dans l'Ouest canadien 2 fois. Alors là, on va y aller 3 fois, une fois de plus. Non, c'est la même chose. Tu t'assures de comme si c'est dans l'Ouest, soit que ce soit Vancouver ou Los Angeles, que tu vas rester la nuit après pour avoir une bonne nuit de sommeil puis voyager le lendemain. Alors ça changera pas ben. C'est juste différent de pas aller, même plus facile de pas avoir passé aux douanes moins souvent. Mais c'est certain qu'on va faire plus d'heures en avion que dans le passé à cause de notre conférence qui était dans l'Est. Mais écoute, c'est Vancouver, Calgary, Edmonton, on est tous sur le même pied.
En terminant, ça devait être de la musique aux oreilles de tout le monde et probablement même des joueurs quand Claude a dit « Je vois pas pourquoi qu'on viserait pas le top ». C'est l'état d'esprit qui t'anime, Marc, en conclusion de cette saison de 56 matchs-là?
Ben, quand on est prête, je l'ai dit dans le passé, we mean business, puis on peut jouer de toutes les façons. C'est certain que notre équipe a pas changé. Je regardais nos scrimmages puis nos pratiques. On a de la pace. On joue de la rapidité. C'est juste qu'on a amené une équipe plus grosse avec des plus de gabarits. Alors, on a mis la marche haute pour nous. Puis, on a hâte de commencer mercredi à Toronto.
Tu disais, les autres années, l'important, c'est de faire les séries. Tu le présentes-tu encore comme ça ou il faut faire les séries? C'est-tu ça ta façon de l'aborder cette année?
Écoute, j'ai parlé à nos joueurs, puis on a nos attentes à l'interne, puis je vais regarder comme ça, mais juste te dire que la marche,
la barre est haute.
La barre est haute, excuse-moi.
Vos attentes envers vous sont élevées. C'est ça qu'on comprend.
À l'interne, oui.
Merci beaucoup, Marc, et bonne chance.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye-bye.